Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Si tu es le Christ, le Messie, dis-le-nous franchement, dis-le-nous ouvertement, dis-le-nous clairement. Jusque à quand vas-tu nous faire languir? Nous sommes dans le doute, nous sommes dans l'incertitude. Nous voyons bien que tu es un homme différent des autres, qu'il y a en toi quelque chose d'autre. Voilà, je pense, que se disaient les pharisiens et que nous nous disons aussi parfois à propos du Christ. Et dans les versets qui précèdent l'évangile que nous venons d'entendre, certains, justement, des judéens et des pharisiens étaient aussi étalés comme ça leurs doutes au grand jour. Certains disaient « Il a un esprit mauvais, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » Mais d'autres disaient « Ces paroles ne sont pas celles d'un possédé. Et d'ailleurs, un esprit mauvais peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Ne sommes-nous pas, nous aussi, tiraillés entre notre envie de croire dans la réalité de Christ et la peur de nous tromper, de nous laisser avoir ? Nous avons difficile à nous engager sans avoir des certitudes que nous ne nous trompons pas. Ah, comme ce serait facile si à la question des Judéens, le Christ répondait sans ambiguïté « Oui, je le suis ». Mais ici aussi, fidèle à sa façon d'être, Jésus ne leur répond ni oui, ni non. Car cette question que les Judéens lui posent est un piège qui lui tente et dans lequel il ne veut pas tomber. Les pharisiens ne peuvent incriminer aucune des actions du Christ. Il voudrait donc trouver dans ses paroles un sujet d'accusation. Et Jésus va leur répondre par une parole qui va encore les mettre plus en colère. « Le Père et moi, nous sommes un. » Tout ce qu'il fait, toutes ses actions, il les fait en parfaite communion avec son Père. Il invoque son Père avant d'accomplir ses miracles. Et on peut dire que si Jésus était un imposteur, Dieu l'aurait-il ainsi exaucé? Il montre qu'il est plus qu'un homme, que sa nature divine, qu'avec sa nature divine, il ne fait qu'un avec le Père. Oui, il est l'envoyé du Père sous la forme d'une personne humaine, mais dans leur nature divine, lui et le Père ne font qu'un. C'est la même volonté d'amour pour l'humanité, pour ses brebis, qui existe dans la divinité. Cette relation d'amour qui l'unit à son Père est l'exemple de ce qu'il veut pour nous. C'est la même volonté de sauver l'homme de son égarement qui anime le Père et le Fils. Et pour les Juifs qui lui avaient demandé de lui dire s'il était le Christ, c'est une réponse, alors là, impossible à entendre. Et ils veulent le lapider, car comme ils disent, « Parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » En somme, ils ne voyaient pas que la réalité était tout autre. C'est Dieu qui s'est fait homme par amour, par abaissement, et ce n'est pas le Christ vu comme homme qui, par vanité, se fait Dieu. Ce n'est pas une usurpation pour lui de se faire Dieu. Car quand bien même il n'aurait été qu'un homme, la loi elle-même appelle Dieu ceux qui ne sont que des hommes. Et il cite ainsi le psaume 82, le verset 6. Dieu avait dit des juges d'Israël, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Le Seigneur leur dit d'ailleurs, « N'est-il pas ce qui est écrit dans votre loi, aux Judéens ou aux Pharisiens ?» Il devait normalement connaître la loi. Si donc vous, hommes, juges en Israël, et à qui Dieu a dit « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des pécheurs, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. » C'est ce qui est dit dans le psaume 82 aussi. À ce moment-là, pouvez-vous m'accuser de blasphème? Moi, qui ne fais qu'accomplir ces paroles, ne suis-je pas aussi fils du Très-Haut ? » Et il développe alors l'importance du regard clair. Il leur montre, il leur rappelle toutes les œuvres qu'ils ont vues, tous les miracles, toutes les guérisons qu'il a accomplies en accord avec son Père. « Ou bien je ne fais rien, et alors, ben vous ne me croyez pas. S'il n'y a pas d'œuvre, tout ce que je dis, ce ne sont que des paroles vaines. Mais ou bien je suis avec mon Père l'artisan de ses œuvres, et si vous ne me croyez pas, moi, mais reconnaissez ses œuvres, adhérez à ses œuvres qui sont les témoignages de ce que je suis. Ce qu'il fait, ce sont les signes, les œuvres que les prophètes ont indiqué pour annoncer la venue du Christ, comme dans Isaïe. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Ainsi, comme les Juifs ne peuvent voir sa nature divine, il les invite à contempler son œuvre. La ressemblance avec l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament est tellement évidente. La même puissance d'amour du Père qui habite le Christ lève tout doute sur son identité de fils de Dieu. Il n'est pas Dieu par grâce, comme nous sommes appelés à le devenir si nous suivons les paroles de vie du Christ, mais il est Dieu par nature. Et leur Christ leur dit, et il nous dit aussi à nous, « Je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas, vous n'adhérez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent d'elles-mêmes pour moi. » Et ce que Jésus disait il y a 2000 ans est encore vrai aujourd'hui. Nous avons difficile de croire en Dieu, de faire confiance dans le Christ qui est le berger de son peuple, de l'humanité. Nous avons difficile de nous laisser guider, de renoncer à l'illusion que nous maîtrisons notre vie. Le Christ s'est présenté comme le bon berger, comme le guide pour ramener l'humanité à une vie avec Dieu. Il nous demande d'être ses brebis, de le suivre avec confiance. Il y a trois caractéristiques importantes qu'il pointe dans la relation du berger avec ses brebis. Et la première, c'est que mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire que nous sommes invités à déboucher nos oreilles, à faire silence, faire taire toutes les voix parasites qui nous empêchent d'être à l'écoute. Ce n'est pas tellement l'oreille externe qu'il faut entretenir, mais c'est surtout l'oreille de notre cœur qu'il nous faut ouvrir. Deuxièmement, il dit, « Et moi, je les connais. Dieu nous connaît. Il me connaît, moi en particulier. » Ce n'est pas une connaissance théorique, une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance, naître avec. Le Christ naît en chacun de nous. Il est ce que nous avons de plus intime en nous. Et troisièmement, elle marche derrière moi. Lorsque le lien de confiance est établi entre le berger et ses brebis, la route devient facile pour les brebis, car elles savent au plus profond d'elles-mêmes que rien de fâcheux ne pourra leur arriver. Et le Christ nous donne aussi les conséquences, les bienfaits qui découlent d'une telle relation, de notre complicité entre brebis que nous sommes et le berger qu'est le Christ. Il dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, nul ne les arrachera de ma main. » C'est la confirmation du lien d'amour indéfectible du berger pour ses brebis et des fruits de l'amour. Il n'y a plus de place pour nous à ce moment-là, pour la peur ou pour l'inquiétude. Ainsi, être une brebis du Seigneur, c'est mettre sa confiance en lui, c'est entendre son invitation pour nous conduire vers sa ressemblance et nous ouvrir à la vie éternelle. Tout ce qui est fait par Dieu est fait par amour. À nous de l'écouter, à nous de le voir, à nous de le sentir et de le vivre. Et d'aimer. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen. Amen.